RMC Intégral Tour, Céline Géraud.
19h06, l'Intégral Tour, vous êtes sur RMC, vous restez avec nous bien sûr pour être au courant de toutes les informations. Et avant de retrouver bien sûr Christophe Cessieux, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon à l'arrivée de la 13e étape au Cap d'Agde, le point complet, tous les résultats, c'est le journal de Martial Fernandez.
RMC Sport.
Et on commence par une information brûlante, c'est fait, c'est officiel, Silva au PSG, c'est signé.
Oui, c'est signé, le site des deux clubs, celui du Paris Saint-Germain et du Milan AC qui l'annonce depuis quelques minutes. Le défenseur brésilien Thiago Silva s'est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain. On parle d'un transfert de 45 millions d'euros, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. Thiago Silva, qui était la priorité dans le secteur défensif pour les dirigeants parisiens, ils sont arrivés à leur fin parce qu'on se souvient qu'au mois de juin dernier, Thiago Silva avait failli signer. Depuis, il avait prolongé au Milan AC et finalement, pour aujourd'hui, pour ce 14 juillet, c'est officiel, il sera parisien la saison prochaine. On en reparlera bien évidemment dans l'after avec Christophe Payet à 22h avec comme invité notamment Sabri Lamouchi.
En attendant, sur le Tour de France, aujourd'hui, un sprint de costaud.
Et le plus costaud d'entre tous, l'Allemand André Greipel, qui s'impose au Cap d'Agde pour cette 13e étape. La 3e victoire sur le Tour pour Greipel, qui a réglé le reste du peloton après le passage du Mont-Saint-Clair du côté de Sète. Greipel qui gagne de quelques centimètres devant le Slovaque et maillot vert Peter Sagan, le Norvégien Boas Sonnagen et le Français Sébastien Hinault. Plus tôt dans la journée, une échappée de 8 coureurs, avec en 14 juillet des Français dans le coup, évidemment, même si pour Mathieu Ladanius, qui faisait partie de l'échappée du jour, la date n'était en rien responsable de sa présence devant.
C'est vrai qu'on a été 5 Français à échapper sur 8. Après, voilà, c'était pas que ce soit le 14 juillet ou pas, c'est bien qu'on soit là-bas, mais c'est pas parce que c'est ce jour-là qu'il faut être dehors. Voilà, on est là pour gagner les étapes et bon, c'est dommage. Alors, mal géré, je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin.
Mathieu Ladanius au micro de Pierre-Yves Leroux. Fin du tour pour Tony Galopin qui a abandonné au début de l'étape. Il souffrait depuis plusieurs jours de problèmes digestifs. Demain, 14e étape entre Limoux et Foix avec deux cols en première catégorie dans les montagnes de l'Ariège. Pas de changement au classement général. Bradley Wiggins repartira avec le maillot jaune avec toujours 2 minutes 5 d'avance sur Christopher Froome et 2,23 sur Nibali. Wiggins qui a vécu tranquillement cette journée sans trop de soucis pour le Britannique.
C'était un peu compliqué, mais heureusement, quand t'as le maillot, t'as un peu de respect. Donc Green Edge, ils ont roulé toute la journée. Et heureusement, on peut rester derrière dans la deuxième ligne. Et heureusement, c'était bien, donc ça va.
Qu'est-ce qui vous fait peur sur la fin de ce tour?
Bon, tous les jours, parce qu'on ne sait jamais. Même une arrivée comme ça, avec les courbes dans les derniers 400 mètres. C'est une petite chute ou quoi, je sais pas, mais... Donc, on est un jour plus proche à Paris, donc c'est bien.
Bradley Wiggins avec Pierre-Yves Leroux.
A priori, pour Christophe Lemaître, à 13 jours du coup d'envoi des Jeux, le choix est fait.
Et ce sera le 200 mètres, choix logique après son chrono cet après-midi au meeting de Londres. 19 secondes, 91 sur cette distance. Le deuxième meilleur temps de sa carrière, Christophe Lemaître s'impose devant le champion d'Europe sur Andy Martina. Et dans la tête de Lemaître, la décision est prise.
Non, forcément, je vais faire le 200, oui, forcément, bah oui. Non, ou à moi, dans le changement, où mon coach Pierrot a envie de me faire le 100 mètres aussi, mais je ne pense pas. Peut-être au jeu prochain si j'y suis, mais sinon, non. Honnêtement, quoi, si proche, même pas loin des en dessous de 19,90, c'est très bien à ce niveau-là, avec ce temps-là, donc c'est cool. Surtout que ça a été dur parce que là j'ai eu un peu de mal à la fin où je sentais que voilà j'étais pas encore vraiment encore les jambes pour tenir vraiment un vrai 200 mètres. Donc ça prouve qu'il y a encore un peu de marge là-dessus. Ouais.
Christophe Lemaître au micro de Florian Fieschi. Seuls deux coureurs ont couru plus vite cette saison que ces 19,91 et c'est plutôt pas mal. Les Jamaïcains Johan Blake et Usain Bolt. Lemaître lui reste de toute façon sélectionnable sur les deux distances 100 et 200 jusqu'au dernier moment. Blanka Vlasic avait repoussé sa décision le plus tard possible mais l'issue est malheureuse. La Croate ne pourra pas participer au jeu. Mal remise d'une opération au tendon d'Achille en janvier dernier, la double championne du monde du saut en hauteur renonce à son rêve d'or olympique.
Une sortie remarquée en dehors du terrain en ce jour de fête nationale, Martial.
Le président de la République qui tacle les joueurs de l'équipe de France de foot. Traditionnelle interview télévisée du 14 juillet aujourd'hui. François Hollande est revenu sur l'attitude des Bleus pendant le dernier Euro. Il n'a pas apprécié le comportement des joueurs.
Ce n'est pas ces résultats que moi je juge, mais c'est l'attitude. Quand on porte le maillot de l'équipe de France, on doit être sublimé. Ce n'est pas un problème là, d'intégration, c'est un problème de respect. Quand on est membre de l'équipe de France, on doit avoir de respect pour le maillot, respect pour les spectateurs, respect pour l'autre équipe. Ce n'est pas simplement un problème d'argent. Les Espagnols qui ont gagné le championnat d'Europe sont très bien payés. Ils sont même peut-être mieux payés que les Français. Vous avez vu comment ils sont collectifs dans le jeu? Comment ces talents se composent? Bah, c'est une belle illustration. Et l'Espagne, elle ne va pas bien économiquement. Mais l'équipe, elle aura fait sans doute du bien à tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Quand on porte le maillot, il faut penser aussi à ceux qui souffrent.
François Hollande, juste après le défilé militaire ce matin sur les Champs-Élysées. Des Chinois hystériques à l'aéroport de Shanghai. Très bruyant comité d'accueil pour l'arrivée de Didier Drogba. L'Ivoirien pourrait jouer dès mercredi avec son nouveau club. Il a signé un contrat de 2 ans et demi et toucherait 250 000 euros par semaine. Roger Lemaire, lui, bientôt de retour sur un banc de touche. À 71 ans, l'ancien sélectionneur des Bleus entre 98 et 2002 pourrait devenir l'entraîneur du club algérien du CS Constantine. Le maire qui ne travaille plus depuis un bref passage dans le championnat turc, c'était il y a 2 ans.
Les basketteurs français sont à Paris.
Avec une esquisse de sourire, enfin, hier à Liévin, la France a battu la Biélorussie 84 à 64. C'est mieux sur le parquet, même si les soucis d'assurance et les pépins de santé empêchent toujours les joueurs Diop, Batum, De Colo et Turiaf de jouer. Demain après-midi à Bercy, ce sera l'Espagne, championne d'Europe et vice-championne olympique. Et l'occasion de profiter du public français pour Vincent Collet, le sélectionneur de cette équipe de France.
Le fait d'avoir ces gros matchs, dont ce très gros match à Paris contre la meilleure équipe européenne, c'était aussi d'emmagasiner de l'énergie, du soutien, parce que ce sont des moments qui comptent, qui sont des moments émotionnels entre une équipe et son public, du partage. Maintenant, il faut faire un gros match, quoi. On est à un stade de la prépa où on a malheureusement connu beaucoup de difficultés, de problèmes. Ces difficultés ne sont pas terminées, puisqu'on sait qu'on aura des joueurs qui ne seront pas là demain. Mais malgré tout, on va essayer quand même de se servir de ce match pour élever notre niveau et c'est ce qu'on peut souhaiter pour le match de demain.
Vincent Collet qui répondait cet après-midi aux questions de François Giuseppi. Facile succès cet après-midi pour les filles en basket, une victoire 79 à 51 face à l'Angola, Sheffield en Angleterre en match de préparation. Demain, elles joueront face à la Grande-Bretagne. Moins de réussite pour les handballeuses de l'équipe de France, battue en Norvège il y a quelques minutes par le Danemark. Le score final, 22 à 19. Et de 10 pour Julien Absalon, 10e titre de champion de France de VTT pour le double champion olympique vainqueur aujourd'hui au G. Chez les filles, 3e succès consécutif au championnat de France pour Julie Bressé. En MotoGP, Dani Pedrosa le plus rapide aux qualifications du Grand Prix d'Italie. L'Espagnol s'élancera demain devant le leader du championnat du monde Jorge Lorenzo. Casey Stoner lui est 5e et le Français Randy Depugnier partira seulement en 13e position. Et puis je vous rappelle l'information de ce début de soirée. La signature, c'est officiel, du Brésilien Thiago Silva au Paris Saint-Germain, le défenseur, l'ex-défenseur du Milan AC, puisque maintenant il est parisien, qui s'est engagé avec le club de la capitale pour une durée de 5 ans. On développera tout ça évidemment dans l'after à 22h avec Christophe Payet, Karine Galli, Nicolas Villas et l'invité Sabri Lamouchi.
Merci Martial Fernandez et à demain. Pour un journal des sports, bien sûr, à 18h avec toute l'équipe dans Intégral Tour. Alors vous restez avec nous, bien sûr, hein, sur RMC dans quelques instants. On ira du côté du Cap d'Agde retrouver Christophe Cessieux, Cyril Guimard et toute l'équipe, hein, pour faire le point complet sur cette 13e étape. On parlera ensuite dans Before London avec nos amis du basket, hein, Jacques Monclar notamment. Comment vont les Bleus avant le duel contre l'Espagne? Du basket féminin aussi, après la victoire face à l'Angola. Les JO sont-ils toujours abordables? C'est le premier débat ce soir, 32-16. Combien ça coûte de s'offrir une journée à Londres en mode olympique? On vous attend au 32-16. Et puis, on commencera tout de suite avec la réaction de Renaud Longuèvre. C'est l'entraîneur national chargé du sprint et qui nous parlera justement de la grosse perf du sprinteur français Christophe Lemaître. 19,91 au 200 mètres. Troisième meilleure performance mondiale de l'année, de la saison. A tout de suite, l'intégral tour après la pub.
RMC, intégral tour. Céline Géraud.
19h17, c'est l'intégral tour. Vous êtes sur RMC, évidemment, vous restez avec nous. Beaucoup de choses ce soir. Dans quelques secondes, on ira retrouver Christophe Cessieux, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon au Cap d'Agde. En attendant, je vous rappelle l'information de ce début de soirée. C'est officiel, hein, le défenseur brésilien du Milan AC, Thiago Silva, vient de s'engager pour 5 ans avec le PSG. Tous les développements, toutes les réactions dans l'after avec Christophe Payet à 22h. Allez, tout de suite, direction le Cap d'Agde. Agde, l'arrivée de la 13e étape. Aujourd'hui, c'était pour les costauds. Il fallait avoir des bonnes cuisses, un bon cœur. Un peu comme vous, Christophe.
Oh oui. Les cuisses, je ne sais pas. Le cœur est là. Le cœur est là, présent. Effectivement, il fallait avoir de la force, surtout pour remporter cette étape. Étape de transition, 217 km. Remportée donc une nouvelle fois par Mr. Greipel, dit le gorille de Rostock pour les intimes, qui ressemble physiquement un peu à Luc Leblanc. Il a des plus grosses cuisses quand même que Lucho. En tous les cas, on va revenir évidemment sur Greipel. Est-ce que Cavendish a trouvé son maître en la personne de Greipel? On va se poser la question. Et puis, on va s'intéresser également à Wiggins, qui, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, a allumé Richard Virenque. Quelle horreur! Choking or not choking? On se posera la question avec toute la Dream Team. Enfin, on s'intéressera aux Pyrénées, parce que demain, ça y est, on débute les Pyrénées. Certes, ce sera un petit apéritif, une petite mise en bouche, mais tout de même, les Pyrénées vont-elles enfin faire naître le suspense dans ce Tour de France? Voilà les questions que l'on va se poser avec la Dream Team, composée évidemment, comme tous les soirs, de notre druide national qui a enfin remis son string jaune après l'avoir enlevé toute la journée. Salut Cyril.
Bonsoir. En fait, j'avais le string vert après avoir mis le string à poids, et maintenant j'ai le string jaune.
Très bien, mais c'est bien parce que dans les paris, tu n'es toujours pas en tête, donc c'est bien au moins que tu aies le string jaune. C'est déjà pas mal. Lucho est là avec nous.
Salut à tous.
Il est fatigué ce soir, il en a marre du Tour de France, il est prêt à l'abandon.
Non, pas du tout.
Il est prêt à l'abandon.
Mais c'est vrai qu'on a le droit d'avoir des coups de mou dans une journée, mais non, mais tout va bien, hein,
bon,
ça va.
J'espère.
Mais il aimait pas le vent dans les états, donc il y avait du vent aujourd'hui, il a énormément souffert.
On est quand même passé au Mont-Saint-Clair, là où il avait triomphé il y a de cela quelques années. Thierry Bourguignon est également avec nous. Lui, le soleil, les étapes au bord de la Méditerranée, il adore ça. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Bon, tu t'es régalé aujourd'hui? Bonsoir, ou tu t'es pas régalé?
Oui. Bon, j'aurais préféré une grosse bataille avec une équipe qui pouvait mettre en difficulté l'équipe jaune, mais du maillot jaune, mais ils n'étaient pas si nombreux que ça.
On va peut-être attendre jusqu'à Paris.
Après la bosse, je pense que le coup de bordure, il n'a pas eu lieu.
Et non.
Du moins, il n'a pas eu lieu sur les meilleurs, je veux dire.
Et oui, le patron est resté bien à l'abri dans le premier groupe, puisque Bradley Wiggins s'est même permis de lancer le sprint pour son coéquipier Boasenhagen. Mais ça n'a pas suffi. Boasenhagen n'a pas réussi à devancer et Greipel et Peter Sagan qui se sont livrés une belle bagarre. Et Greipel qui a donc égalisé à 3 victoires partout entre Sagan et Greipel, alors que Cavendish, lui, reste bloqué sur ce pauvre chiffre de une seule victoire. C'est quand même rare de ne le voir, voir aussi mal, Cavendish. Hein, d'habitude, à ce stade du Tour de France, Cyril, il est au moins à 4 ou 5.
Il avait l'habitude d'en gagner 5 par tour. Et cette année, il est par... De toute façon, 5, il ne pourra pas les gagner parce qu'il ne reste que 3 étapes avec l'arrivée au sprint. Donc, de toute façon, il n'égalera pas ses records, puisque ses habitudes. Il est donc aujourd'hui... Il sera moins primé que d'habitude. Peut-être qu'il pense à Londres aussi, je ne sais pas.
On va en parler. On va essayer d'expliquer pourquoi Cavendish n'a pas réussi à passer le Mont-Saint-Clair. Pourquoi
parce
Cavendish
n'est pas dans la bonne équipe aussi.
C'est ça. Il n'a pas.
Ah, mais il est peut-être pas trop clair en ce moment. Allons.
Il est peut-être
clair.
Attention clair. Quand tu dis clair, on pense tout de suite à Auclair.
Tu sais, dans le vélo,
Auclair.
Auclair était pas mal.
Lucho. Toi qui es le roi du sprint,
ouais.
Cavendish, c'est plus que c'était, mon bon monsieur.
C'est pas, non, il faut pas dire ça, mais je pense que il a pas l'occasion de pouvoir remporter comme il a fait par les années précédentes. Je pense que il y a un manque d'équipiers qui sont, ses équipiers à lui sont concentrés plus sur maintenant le cas Cavendish, Wiggins et puis Froome. Donc c'est vrai qu'il joue le classement général contrairement aux années précédentes. Donc on peut pas non plus espérer voir grand chose peut-être de Cavendish, ses placements, et puis c'est peut-être pas aussi les mêmes arrivées que les années précédentes aussi. Il y a eu des arrivées où c'était plus des arrivées en boss, ça lui convenait peut-être un petit peu moins. Les circonstances de course ont fait que aussi, il ne faut pas oublier que Cavendish a chuté pas mal de fois aussi sur certaines arrivées où il pouvait éventuellement les remporter. Et cette année, il n'a pas eu de chance.
Aujourd'hui, c'est Greipel qui fait un truc. Hein,
Parce qu'il a toujours été bien placé. Quand tu regardes aujourd'hui Greipel dans le final, il avait quand même 4 équipiers.
Non, mais c'est pas qui est fort, c'est plus qu'il a, il a dans pu le final, passer dans les, quand même dans les la bosse Wiggins. À 7. C'est
Wiggins,
pas autre chose.
Il était très très bien pour Greipel dans le final aussi.
Ouais, alors est-ce qu'il est pas un peu en deçà quand même, de malgré le manque d'équipiers, malgré la perspective de Londres et des Jeux qui arrivent dans quelques semaines pour Cavendish, est-ce qu'il a pas atteint son pic l'année dernière et il serait pas un peu en descente, ou peut-être une année sans, une année moins bien, faire, Cyril? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, on peut analyser son manque de réussite cette année sur le Tour pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu deux belles arrivées en bosse où là, il ne pouvait pas jouer. Et donc, il est tombé sur un Peter Sagan qui, lui, n'a pas tremblé. Ensuite, il a été victime d'une lourde chute qui l'a peut-être handicapé le lendemain à l'arrivée à Saint-Quentin où Greipel s'imposait devant Goss. Ensuite, il est dans une équipe où on ne le protège pas autant qu'on le protégeait avant. On protège d'abord Wiggins et un petit peu Fromm. On ne peut pas non plus en même temps protéger le sprinter. Donc il prend un peu plus de vent, donc c'est un peu plus difficile. Aujourd'hui, peut-être que s'il est dans une équipe sans leader, sans avoir le maillot jaune dans son équipe, on l'amène peut-être beaucoup mieux placé parce qu'au pied du Mont-Saint-Clair, il n'était quand même pas dans les 10 ou 15 premiers. Il aurait fallu qu'il soit dans les 10 ou 15 premiers, attendu par des équipiers qui l'auraient ramené après, alors que là, il n'y a aucun équipier qui l'a attendu. Il est resté tout seul. Alors, la vraie question, c'est pas que Cavendish soit moins fort que les autres années, c'est pas le fait qu'il a atteint ses pics dans les deux années précédentes. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pourquoi il a signé chez Sky alors qu'il savait qu'il y avait des types qui pouvaient gagner le Tour de France. Fallait pas signer chez Sky, fallait aller ailleurs dans une équipe où il allait avoir des mecs pour l'emmener toute la journée.
Ouais, et puis tu disais Cyril aussi que ce genre de personnage, évidemment, qui est un grand leader du cyclisme mondial, a besoin de se sentir aimé, Thierry. Et là, dans cette équipe, il ne se sent peut-être pas aimé, beaucoup moins en tous les cas qu'un certain Wiggins ou Froome.
Non, mais Cyril l'a bien dit. Bon,
l'étape
d'aujourd'hui, en fait, je pense qu'il, dans la tête, il ne passait pas Mont-Saint-Clair. Et pour lui, ça arrivait au sprint sans les vrais sprinteurs. Bon, malheureusement, il y a Greipel qui a fait un truc parce qu'il a dû vraiment se faire mal dans le Mont-Saint-Clair. Sa performance, c'est pas gagner le sprint, c'est vraiment de passer ce Mont-Saint-Clair. Parce qu'en fait, c'est le seul gros sprinteur.
Ce que tu veux dire, c'est que Greipel est capable de se faire mal? Cavendish, non.
Non, Cavendish, il est dans la tête, il n'était pas là pour l'étape aujourd'hui. Mais ça se voyait, tu l'as dit toi-même. Il aurait pu se mettre au moins dans la route son leader et puis bien se placer au pied. Alors que là, il n'était pas placé. Donc déjà, il part avec un handicap. Et puis après, comme son équipe est autour du maillot et pas autour de lui, s'il avait une équipe autour de lui de suite... Dans la descente, il prenait les choses en place, en marche, et puis il le ramenait sur la tête de course. Et après, ça changeait la course.
Alors, Christophe a un peu raison dans le débat.
C'est quand même une première, ça. C'est la première fois que vous me donnez raison, mon cher Druide.
Quand c'est logique, quand c'est légitime, je n'hésite pas à faire des compliments et à dire que quelque chose est bien. Quand c'est mal, je le dis aussi. Ça ne me porte pas toujours bonheur, mais bon, c'était la 13e étape. Hier, on était le vendredi 13, donc on peut tenter sa chance. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, dans cette équipe, il n'est plus rien. Il a gagné qu'une seule étape. Il est pratiquement, s'il y avait vraiment le feu, il serait obligé de rouler. Tout le monde s'intéresse à qui aujourd'hui? À Wiggins. Et encore
leader,
plus, au match, Wiggins, Fromm. Et lui, dans cette affaire, il n'existe plus. Il traîne sa misère dans ce tour.
Son ego est touché.
Il va démissionner alors.
Il va peut-être abandonner surtout.
Il va peut-être chercher à changer d'équipe aussi.
Il va démissionner de l'équipe. Quoi.
Il va finir le tour et puis il va faire un champion du monde exceptionnel.
Un champion olympique. Et là, il reprendra la.
Alors ça, c'est pas gagné parce qu'avec des équipes de 5, avec un peloton de 200, salut l'aventure.
Hein. Tu as vu l'équipe qu'il a autour de lui. Hein.
Oui, mais attends, ils vont quand même pas rouler à 3 toute la journée. Hein.
Ils vont faire en sorte que ça arrive pour lui.
Et peut-être que Wiggins et Froome vont peut-être rouler pour Cavendish.
Ils vont rouler pour Cavendish, mais ils vont quand même pas rouler 200 bornes, plus de 200 km avec Cavendish en allant chercher toutes les échappées. Bon, ou alors, là, on va se poser des questions. Quoi.
Ouais. En tous les cas, Cavendish est moins bien. Ça, on le sent, on le voit sur les routes du Tour. Il traîne un peu sa misère. Et on n'est pas convaincu qu'il arrivera jusqu'à Paris. Je pense qu'il l'arrêtera un peu avant, comme Cancellara l'a fait hier. Non.
Si, il est arrivé jusque-là. Donc, si.
Il reste quand même.
Oui, mais enfin, il va rester une semaine.
Quand t'es pas bien dans ta tête et qu'il y a quatre cols, après l'Aubisque, Tourmalet, Aspin, Persourde. Je suis pas sûr qu'à un moment il serre pas le frein à main.
Il conduit bien le bus. Hein.
Mais il conduit bien le bus, ouais,
c'est vrai que c'est lui le patron, t'as pas le droit de rouler plus vite que lui.
Autrement, il tape. Donc, il tape le bulldog. Très bien, on va s'intéresser à un autre débat maintenant, messieurs, puisqu'on a parlé de Cavendish, parlons d'un autre Britannique, notre ami Bradley Wiggins, qui a osé, en ce jour de fête nationale, s'il vous plaît, s'attaquer à un monument,
du sport français. Qui l'a attaqué, c'est hier. C'est hier qu'il l'attaque.
Dans un papier dans le Guardian.
Oui, mais c'est sorti aujourd'hui dans la presse. Mais...
C'est sorti aujourd'hui, voilà. Alors, il attaque, ce monument national, c'est évidemment Richard Virenque. Dans ce papier de Bradley Wiggins, écrit par Bradley Wiggins dans le Guardian, il dit « La Grande-Bretagne est un pays où le dopage n'est pas moralement acceptable. C'est différent de la France, dit-il, où un coureur comme Richard Virenque peut se doper, être pris, suspendu, revenir et être un héros national. » Alors, écoutez tout d'abord la réponse de Richard Virenque, qui a pris ça dans les gencives et qui réagit donc aux propos de Bradley Wiggins.
Je crois que l'affaire Fessia a révélé certains problèmes dans le cyclisme en général. Et je crois que Bradley, à cet âge-là, il n'était pas en couche-culotte, donc il est assez grand pour pouvoir le comprendre. Donc, j'ai été suspendu, j'ai payé et je suis revenu. Donc, je crois que le public a fait son choix et voilà, donc j'ai prouvé de quoi j'étais fait dans mon retour, donc peut-être ce qui le dérange c'est peut-être ça, je sais pas, donc il est bon, j'ai trop rien à dire si ce n'est que ça le dérange peut-être que le public m'aime tant aujourd'hui, peut-être c'est ce qui lui manque peut-être, mais bon, il a tout approuvé sur le Tour de France. Tout ce que je souhaite, c'est d'aller au bout avec son maillot jaune.
Voilà. Alors, est-ce que Wiggins est jaloux de la popularité de Richard Virenque ? Oh, ça semble quand même un peu étonnant, Thierry.
Non, c'est pas ça.
T'es choqué par les propos de Wiggins ?
Non, parce que
qui allume
c'est...
un peu Virenque. Parce que... Combien 98, ça commence à remonter. C'était il y a 14 ans.
Non, mais je peux le comprendre.
Oui, 14 ans, il avait quel âge, Bradley ?
Il avait 21 ans.
Il était plus jeune.
18 ans. Il n'était pas en couche culotte, mais il n'était pas vieux.
Il n'était pas en couche culotte. Non, mais c'est pas ça. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est que les Français ont pu pardonner. D'autres ne l'auraient pas fait. Tu l'as dit on l'a dit il y a deux jours. Je crois que les Anglais ne voulaient pas mettre même un repenti aux Jeux Olympiques.
David Miller. Ouais.
Donc voilà. C'est une autre idée du sport et peut-être que même le public ne peut pas pardonner une faute à un coureur, même si je conçois qu'on peut faire des fautes et puis purger sa peine et après revenir.
Ouais.
Hein, ça c'est un autre problème. D'ailleurs heureusement, parce que autrement il y aurait des problèmes. Celui qui est condamné à quelle que soit la faute, sportive ou autre. Serait privé d'exister plus tard.
Ouais. Cyril, alors c'est vrai que Bradley Wiggins, on l'aime ou on le déteste. C'est pas un garçon qui laisse indifférent. Il a parfois un comportement un peu hautain avec les uns. Il est parfois très sympa avec d'autres. En tous les cas, il ose dire des choses que c'est pas. Il pratique pas la langue de bois. C'est pas son truc la langue de bois. Alors qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce qu'un grand champion comme ça doit la pratiquer ou non ?
Moi, je ne vais pas faire le procès de Bradley Wiggins parce que quelqu'un qui dit ce qu'il pense, à mes yeux, est quelqu'un de respectable. Donc Bradley Wiggins dit ce qu'il pense, c'est sa pensée à lui, c'est les choses telles qu'il les ressent, il les dit. Mais ça n'est pas condamnable, puisque de toute façon, il y a eu les faits. Les faits ne se discutent pas. Bon, il a sa façon de voir les choses, et elle est peut-être relativement importante et peut s'expliquer avec par rapport à un certain nombre de choses. D'abord, le cyclisme sur route a connu, mais il y a très longtemps, le cas Tom Simpson. On en parlait hier. Mais le cyclisme sur route, tel qu'on le conçoit chez nous, n'existe pas ou n'existait pas. Et encore, vous savez, vous n'avez pas un grand tour d'Angleterre, vous n'avez pas des classiques Coupe du Monde, World Tour. Le cyclisme est peu développé là-bas. Et vous avez un coureur qui n'a pas cette
qu'est-ce
culture.
Qu'est-ce que ce serait si c'était développé,
oui,
dis donc, hein.
Oui, il faut peut-être mieux qu'il ne se développe pas trop. Mais nous, on a la culture du dopage dans les pays latins depuis très longtemps. Rappelez-vous, après la guerre, on a parlé où il y avait Coppi, Antil, tout le monde ont avoué ou admettait prendre des amphétamines. C'était devenu une chose tout à fait logique, tout à fait normale, tout du moins tant qu'il n'y avait pas de contrôle. Donc cette culture de prendre quelque chose, c'est presque normal. Et le grand public, à la limite, oui, c'est normal, c'est dur qu'ils prennent quelque chose. Bah, à la limite, pourquoi faire des contrôles ? Les Anglais n'ont pas cette vision des choses. Et lui, il réagit aussi par rapport à cela. Alors, le condamner ou dire c'est un salaud, non, moi je dis qu'il dit ce qu'il pense. Il y a des faits qui se sont produits, il les commente et il les commente avec la façon dont il les a vécus et qu'il trouve peut-être anormal que quelqu'un qui a peut-être sali à une époque l'image du sport cycliste, même s'il a payé, qu'il se retrouve aujourd'hui et qu'on le considère un héros. Pour lui, quelqu'un qui a eu ce type d'aventure ne devrait pas être un héros en France, sauf que Richard Virenque, il faut bien le dire, à l'époque où il allait chercher le maillot de la montagne, il crée de l'émotion, et quand on crée de l'émotion, ça ne s'efface pas.
Exactement, et l'émotion est toujours vivante, on le voit tous les jours, puisque Richard Virenque est évidemment sur son Tour de France, et qu'il reste l'un des coureurs les plus populaires. Lucho, tu lui as pardonné, toi, à Richard Virenque
Bah, vous savez, dans une vie, comme je le dis si souvent, on fait tous des erreurs. Hein, on fait tous des erreurs et à un moment donné, il faut savoir tourner la page et puis savoir pardonner aussi. Hein. La vie, elle est tellement longue, elle est tellement fastidieuse que, bon, à un moment donné, Richard, il a peut-être fait une erreur, mais qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie ? Après, par rapport aux commentaires de Bradley Wiggins, je rejoins Cyril. Il dit ce qu'il pense. C'est pas condamnable, je veux dire, il dit pas de choses.
Pas de contre-vérité.
Oui, pas de contre-vérité. Puis,
mais il n'accuse pas non plus.
Il n'accuse pas. Une véritable attaque. Il illustre son propos en expliquant la différence entre anglais et français.
Il n'accuse pas, lui, il accepte
lui,
pas.
Il trouve anormal que Richard Virenque soit un héros en France.
En Angleterre, il ne le serait pas.
Il n'accepte pas que quelqu'un qui a fait une grave erreur il y a plusieurs années soit un héros aujourd'hui. Bon, je ne sais pas comment ça se serait passé en Angleterre, j'en sais rien, je connais pas le public français, mais bon, le public français s'est pardonné. Et c'est vrai que bon, des fois, on a tendance, nous,
il s'est pardonné ou il est naïf ?
On a tendance, nous, les Français, à savoir oublier beaucoup de choses. Hein, que ce soit dans le sport de haut niveau ou même, je dirais, même dans la politique. Hein, vous savez, il y a des députés qui ont fait des graves fautes dans leur carrière de politique et qui ont été réélus après par les Français. Donc voilà, je veux dire, c'est pas que dans le sport. Nous, en France, on aime bien réélire ou aimer des gens qui ont fait des graves fautes dans leur vie et puis qui, voilà.
Non, c'est pas qu'on aime bien, c'est qu'on pardonne. On s'est pardonné.
Mais on s'est pardonné, voilà. Oui, non, mais on s'est pardonné.
La mentalité latine qu'anglo-saxonne.
Et on oublie, oui, voilà. Parce que, en fait, il a égratigné les Français et les Italiens dans son truc. Bon, et sans citer l'Italien, il a dit qu'on avait à peu près la même culture et que c'était pas une culture anglo-saxonne. Mais bon,
regardez ce qui se passe en Espagne où un garçon comme Contador, là le public espagnol ne comprend pas et refuse de se rendre à l'évidence.
Bah, lui aussi refuse l'évidence. Ouais. Et je pense que d'ici quelques temps, vous aurez Contador en statut.
Oui.
Bon, s'il était en France, il aurait peut-être sa statue. Non, mais enfin,
bon, je crois que l'année prochaine, les Espagnols.
Tiens, vive le dopage !
Les Espagnols. Oh,
allez, vive monsieur le dopage. Guimard, mais vous êtes fou ou quoi ?
Les Espagnols. Vous êtes pris dans une affaire de dopage, vous devenez une idole.
Je comprends mieux pourquoi Cyril a gagné les paris l'an dernier.
Je peux finir, là, vous avez parlé plus longtemps que moi, les gars. Non, je dirais, les Espagnols.
C'est pas un débat politique.
Regardez du côté de l'Espagne, ils n'ont jamais voulu réouvrir le dossier Puerto. Faut quand même
mais
le savoir.
Surtout pas.
Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans le dossier Puerto, on a cité que des noms de cyclistes et tout ça. Voilà, les cyclistes, les cyclistes, les cyclistes. Mais bon, a priori, il y a quand même pas mal de monde dans le dossier.
Oui, tu vas pas faire comme
on va pas
comme
le rouvrir.
Les Espagnols.
C'est simplement une parenthèse.
Noah n'avait pas tout à fait tort.
Ah, mais ça, c'est la deuxième fois que tu le dis depuis le début du tour.
Yannick sort de ce corps. Yannick sort de ce corps.
Mais pour en revenir à Richard Virenque, c'est quand même, c'est pas un tordu, Richard. Je veux dire, vous le voyez se comporter ici sur le tour. Bon, ben voilà, je veux dire, après, on aime ou on n'aime pas, hein. Ouais. Bon, moi j'ai eu pas mal de polémiques avec lui à l'époque quand j'étais coureur. Il y avait une rivalité. Bon, moi je m'en fous. Moi j'ai tourné la page depuis un moment. Je vais vous le dire.
Eh ben tant mieux. Tournons la page Virenque et ouvrons la page Wiggins. La page Wiggins qui va peut-être. Enfin, le livre Wiggins qui aura sans doute beaucoup de pages puisqu'il est parti pour un moment. Et en tous les cas, on ne l'a pas senti aujourd'hui attaqué ou en difficulté plus exactement. On va voir dans un instant.
Je vais faire une toute petite parenthèse. Oui. C'est lui qui a écrit.
Dans le Guardian.
Donc j'ai
tu as réussi à
de mémoire, je ne connais qu'un seul coureur qui a écrit des articles. Laurent Fignon.
Ouais. C'est un intello, Bradley Wiggins. Oui. Il a pris sa plume parce qu'il en a marre des insinuations, il en a marre des attaques sur
Twitter. Mais ça veut dire quelque chose quand même.
Ouais. Très bien. Alors justement, on va parler de Bradley Wiggins dans un instant. Est-ce que les Pyrénées que l'on va aborder demain, est-ce que ces Pyrénées vont-elles enfin faire naître un peu de suspense dans le Tour de France? Parce que il est vrai que pour le suspense, on repassera pour l'instant. En attendant, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC dans quelques instants, lorsque j'aurai retrouvé mon petit jeu.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Et comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. D'ailleurs, Georges Quirino en a récupéré une magnifique, magnifique lunette. Elles lui vont très très bien. Elles lui mangent un peu le visage. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Qui porte actuellement le maillot vert du classement par points? Si vous pensez que la bonne réponse est André Greipel, vous envoyez A par SMS au 732-16. Et si vous pensez que la bonne réponse est Peter Sagan, eh ben, faut envoyer B par SMS au 732-16. Bonne chance. On revient dans un instant. On va parler des Pyrénées. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour, la dernière ligne droite du jour. Nous sommes ce soir au Cap d'Agde, soir de la 13e étape de ce Tour de France, remporté donc par André Greipel, le maître allemand du sprint, qui a battu le maître britannique Cavendish, qui s'est retrouvé largué. Il n'a pas été battu à proprement parler sur son terrain. Il n'a pas réussi à passer avec le groupe de tête, le Mont-Saint-Clair, et donc victoire de Greipel. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Bradley Wiggins, dont on a parlé il y a quelques instants dans notre débat concernant donc ces petites attaques, ces petites piques à l'intention de Richard Virenque. Il y a Laurent qui nous écrit de Châtellerault sur rmcsport.fr qui nous dit: eh les gars, vous déconnez, la veille Wiggins a loué son compatriote Millard qui selon lui avait fauté et s'était racheté une conduite et méritait d'être loué selon lui. Alors Millard mérite mais pas Virenque. Il est incohérent ce Wiggins, nous dit Laurent. Qu'est-ce que tu en dis, Cyril?
Là je comprends pas très bien la réaction, excuse-moi Laurent, mais jusqu'à preuve du contraire, Millard a gagné l'étape d'hier, mais c'est pas une star, c'est pas une icône. C'est un coureur qui a gagné une étape hier. Il le félicite parce qu'il a gagné l'étape. Il ne le félicite pas parce que c'est une star. Ouais. Il y a longtemps que Millard ne peut plus être une star en Angleterre. C'est un bon coureur. On est content qu'il ait gagné l'étape d'hier. On est aussi content qu'il ait fait... Il s'est accusé d'avoir fait un certain nombre de choses. C'est un repenti. Il est respectable à ce niveau-là. Mais Wiggins, dans ses déclarations, n'est pas irrespectueux vis-à-vis de Virenque.
Non, il explique en fait la différence de mentalité entre la France et l'Angleterre. C'est ça qu'il veut dire.
C'est
qu'il veut dire que.
Et en plus, c'est très bien écrit.
En Angleterre, Millard ne serait pas redevenu une star. C'est
mais
ça.
Mais il n'est pas une star et à mon avis, il ne le sera pas.
Très bien. S'il venait à disputer la victoire finale du tour, tu ne crois pas que les Anglais seraient derrière lui?
Oui, mais il n'est pas dans ce cas-là.
Non, mais d'accord, mais bon, Richard a fait vibrer parce qu'il
Richard n'a jamais gagné le Tour de France non plus.
Aller chercher le maillot à poids, bah, il n'a jamais gagné le Tour non plus, même avant. Ouais. Que je sache. Bon, donc, je pense qu'il y a une différence. Je suis d'accord avec.
Tu es d'accord avec Laurent?
Avec Laurent, oui.
D'accord,
bien sûr.
Très bien. Ben voilà, Laurent, en tous les cas, n'hésitez pas, envoyez-moi des mails. Je lis les mails très intéressants et celui-ci, je l'ai trouvé très intéressant. N'est-ce pas, Lucho? Qu'est-ce que tu en penses?
Très, très intéressant.
Très intéressant. Ouais, oui. Nos auditeurs sont des gens intéressants.
Oui. Hein,
évidemment. Je suis évidemment.
Comme j'ai dit pour Wiggins tout à l'heure, c'est ce qu'il pense et ce qu'il ressent. C'est donc respectable.
Ah, mais on n'a pas dit le contraire.
On n'a pas dit le contraire, mon cher.
Mais Millard n'est pas une star.
Allez, on s'intéresse aux Pyrénées, montagne Pyrénées. Ça y est, on y arrive. On
est tout à fait d'accord avec toi.
S'il vous plaît, messieurs, un peu de.
Hein, de. Voilà. Discipline.
De discipline, voilà. Je cherchais l'expression. Les Pyrénées, donc on les aborde demain. Les Pyrénées vont-elles enfin faire naître un peu de suspense
bien sûr.
Dans ce Tour de France? Mais bien sûr, mais tu dis ça depuis le début. Dans les Alpes, tu pensais que, ouais, ça va être bien, ça va être chouette. Ils vont attaquer, Nibali va attaquer dans la descente. Il va tout faire péter. Et ben rien du tout.
Mais c'est normal. Dans une étape comme celle de demain, il faut avoir la foi.
On va arriver dans l'Ariège demain, tu vas voir un petit peu comment ça va se passer.
Il ne faut pas rester Limoux.
Alors Limoux-Foix, ce sera la première étape, il y en aura d'autres.
Il faut avoir la foi.
On a compris, Cyril, on va simplement comprendre. Ah, il a mis une bonne minute, c'est pas mal par rapport à l'habitude.
Cyril, est-ce que tu viens sur Pau demain?
Donc première étape des Pyrénées demain, messieurs, s'il vous plaît. Il y en aura une autre. Non pas après-demain, parce que ça m'attend pas, ce sera de la gnognotte, et ce sera pour les sprinteurs et peut-être pour Cavendish. Ensuite, après la journée de repos, là, ça va commencer à être sérieux. Ce sera mercredi prochain entre Pau et Bagnères-de-Luchon. Et pour terminer, une autre étape encore, la dernière véritable étape de montagne qui aura lieu jeudi prochain entre Bagnères-de-Luchon et Peyragudes. Ce sera la dernière arrivée en côte. Alors, le plateau, enfin le plateau qu'on nous présente, Cyril, est quand même appétissant. Est-ce qu'il va vraiment faire naître un peu de suspense? Est-ce que tu penses que les Pyrénées peuvent être moins favorables à Wiggins? Est-ce que tu penses que la troisième semaine peut peser dans les jambes du Britannique? Est-ce que tu penses que son coéquipier, lieutenant et peut-être futur adversaire va l'attaquer? Enfin bref, est-ce qu'on va avoir un peu de suspense, diable, dans ce Tour de France?
C'est marrant, en regardant l'énumération des étapes telles que tu viens de les faire, et en même temps je feuilletais mon roadbook, j'ai quand même le sentiment que ce Tour de France est quand même peu montagneux. Parce que l'étape de demain, il y a deux cols, bien sûr, le deuxième est difficile, les derniers kilomètres, mais il reste 38 kilomètres pour aller à l'arrivée. Bon, si tu mets une grosse mine là, dans le dernier col, t'as quand même du mal à aller à l'arrivée tout seul si derrière tout est organisé. Et ensuite, on a en fait qu'une vraie étape de montagne, celle des quatre cols.
Il y a deux grandes étapes. Une
non,
dans
il y en a qu'une. La dernière, c'est du pipi de chat. Attends,
non. Une dans les Alpes et une dans les Pyrénées.
La grosse, c'est Bagnères de Luchon.
Parce que l'arrivée là, à Peyragudes. Oh, je suis désolé, il se passera rien. T'as le port des Pâles. T'as le port de Balès, oui, le port des Balles, là. T'en sais rien, c'est pas une étape de montagne, ça.
Donc, toi, tu penses qu'il n'y aura pas de suspense, en gros. Si c'est pas...
Le suspense, il est entre Fromm et Wiggins, point.
C'est tout.
S'il y en a un qui a la moindre. Si d'un seul coup, il y en a un qui a une patte molle. qui a un petit peu des jambes de flanelle.
Je rajouterai quand même Nibali quand même dans les Pyrénées.
Nibali, c'est pas Pantani, voilà. Nibali.
Je veux donner de l'espoir aux auditeurs qui nous écoutent.
Mais il y a toi qui garde la foi là.
Continue à t'écouter, c'est ça.
Mais
nos auditeurs restent fidèles, même si le tour n'a pas de suspense.
Non mais bon,
Nibali il est à 2:20 plus le contre-la-montre, il a 5 minutes.
Lucho, au fond de toi, tu y crois? Tu crois ce que tu dis? Tu crois qu'il va y avoir du suspense? Il va se passer des choses? Ou alors c'est uniquement pour essayer de faire naître un suspense artificiel?
Tu veux que je te dise?
Vas-y, dis-le-moi. Franchement, les yeux dans les yeux,
on est à la radio.
Ce que je dis maintenant, je n'y crois pas du tout.
De toute façon, il n'a jamais cru ce qu'il disait depuis le début.
Donc voilà.
Quand il donne,
je vais donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent ce soir. Regardez, écoutez RMC tous les jours, il va y avoir du bouleversement.
Tu peux donner des espoirs.
Dans les commentaires, Louchou, il y aura certainement du bouleversement, c'est sûr. Tous les jours, il y en a toujours un petit peu.
Un peu bouleversé.
Mais bon, c'est vrai que je dis pas que c'est dramatique la suite de ce tour, parce qu'il reste qu'une semaine, donc ça va passer très très vite. Hein, la seule espoir qu'il peut y avoir, c'est de voir Wiggins sauter. Voilà. Carrément.
Tomber.
Non, sauter. Sauter.
Oh non, mais il sautera pas.
Il se fait une fracture du crâne dans l'étape.
Oh non, non, tu peux pas dire.
Tu crois pas ce que tu dis.
Fracture du crâne en montant le col de Persourde, c'est ce que je veux dire. Il arrive au pied, paf, il se prend dans la tête. Il peut plus y arriver.
Comme Morkov tout à l'heure.
J'ai jamais dit qu'il allait tomber se faire une fracture du crâne.
Non, mais
tu crois pas ce que tu dis.
Laisse-moi continuer mon explication.
Tu vas être attaqué par une bande de Sky en colère.
Quand il y a des coureurs qui sont pas bien, quand ils arrivent au pied d'un col, ils se font une fracture du crâne, quoi. Voilà,
ils rentrent dans le mur
carrément. D'accord. Et donc ça peut arriver à Wiggins dans les Pyrénées, tu comprends?
Ça peut arriver à Wiggins dans les Pyrénées.
Mais
Thierry, toi qui a fait plein de Tours de France, la troisième semaine c'est quand même pas une semaine comme les autres, et on sait que Wiggins est un garçon remarquable, il l'a prouvé depuis le début de la saison en remportant les épreuves d'une semaine, mais trois semaines c'est pas la même quand même, hein.
Mais Wiggins, on l'a vu aujourd'hui, il est d'une sérénité exceptionnelle. C'est un gars qui est cool, qui est sûr de lui, qui est sûr de son équipe, et il a raison d'ailleurs. Et pour rendre l'ascenseur à son équipe, il emmène même le sprint à son sprinter. Donc, à la rigueur, je ne vois pas comment ça peut lui échapper. Franchement, après ce qu'on a dit, demain, je ne vois pas comment on peut l'attaquer dans ces deux petits cols. Et puis la grande étape des Pyrénées, il va falloir être fort pour faire sauter la Sky, hein, parce que c'est d'accord. Derrière lui, il y a un homme exceptionnel.
Oui, mais c'est ça.
Froome qui est juste derrière pour assurer au pire une défaillance de sa part. Et non. Et s'il y a un espoir de voir un autre vainqueur que Wiggins,
c'est que
Wiggins se trouve complètement. Et ça, c'est, je vois pas comment ça peut arriver.
Bon, on verra bien.
Même il si reste troisième semaine, c'est la plus dure, mais dans sa tête,
il est costaud.
Il est conditionné pour aller gagner le tour cette année.
Il est conditionné pour aller gagner le tour. On verra en tous les cas, puisqu'on attaque la montagne à nouveau demain avec cette étape des Pyrénées. Je vous signale, messieurs, que notre débat sur les Anglais et le dopage
Il y a le feu.
Pas le feu, mais il y a beaucoup de réactions. Tiens, Chantal qui nous écrit par exemple, qui dit que le
Chantal,
fait de prendre
bonjour.
La parole rendre la parole respectable, je ne suis pas certaine. Que les Anglais s'affichent comme une culture d'où la triche serait absente, alors là, il va falloir nous expliquer ce que les Anglo-Saxons ont pour eux. Et que si tu triches et que tu te fais prendre, alors il faut avouer. De là à nous faire croire que la triche serait réservée aux latins, enfin, conclut-elle. Et puis une autre réaction, celle de Ben qui dit « Bonsoir, il est gentil Wiggins. Que pense-t-il de l'accueil reçu par Dwayne Chambers au meeting de Crystal Palace ?» Je ne sais pas l'accueil qu'il a reçu au meeting.
Moi non plus, j'y étais pas.
On va demander à Maryse peut-être ou à nos spécialistes athlés. Je ne sais pas s'il a été accueilli ou
sifflé. Je pense aussi qu'il a
dit
ça pour un peu se défendre parce que quand même, il y a une semaine, il y a eu des voix qui se sont un peu interrogées sur les performances des Sky.
Évidemment, comment veux-tu ne pas t'interroger quand tu vois des performances comme ça d'un garçon qui vient de la piste et qui aujourd'hui tu nous l'as expliqué, besoin d'être expliqué à plusieurs reprises.
Christophe, c'est pas sa performance qui m'étonne. Moi, c'est la performance de son équipe entière.
En entier, voilà. C'est ça. C'est, en fait,
performance
c'est ça.
C'est de Wiggins, ça dont il a été question. Qu'il était très fort. Et
c'est de ça dont il a été question, Thierry, quand on a comparé la Sky.
Sonagan, je l'ai vu arriver sur Paris-Corrèze, il avait 20 ans. Excuse-moi. Hein.
Mais Froome, tu l'as vu arriver, toi?
Oui, j'ai déjà vu depuis 2 ans. Depuis 2 ans.
Tu l'as vu comme nous.
De très loin, tu l'as vu arriver de très loin.
Non, moi, je l'ai vu quand il prenait les boulons en tête.
Messieurs, il reste 4 minutes pour les paris, évidemment. Les paris, c'est avec Benji, comme tous les soirs.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Monsieur Benji, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Cessieux, bonsoir à tous.
Bon, Greipel, on l'avait pas, on pensait pas qu'il passerait la bosse, notre ami Greipel. Hein.
Non, Greipel, on ne l'avait pas, on avait le deuxième, Peter Sagan. Bien vu Cyril qui a quand même... le quatrième Sébastien Hinault, c'était bien joué ça quand même.
Ouais. Le premier
mais
français,
moins bien
bravo,
que de voir
bravo.
Le deuxième.
Bah bien sûr.
La cote était quand même
bonne. Il vaut mieux trouver le quatrième, mais vaut mieux trouver le deuxième, non, en termes de points, Benji. Non,
oui, tout à fait. Mais la cote était à 125 quand même. C'était plus facile de trouver Sagan.
Et t'es vendu, Benji.
Si Sagan. Non, mais aussi, je l'ai donné Sagan. Il y a Georges qui est là en train de dire, moi j'ai donné Sagan. Ben nous aussi.
C'est facile de donner le maillot vert tous les jours.
Moi Jérémy fait 62e quand même. Bon.
Allez chercher Sébastien Hinault. Qui vient faire 4
Oui, non mais c'est bien.
Moi, j'espérais que dans le virage, là, ils allaient un peu embarquer à gauche.
N'énerve pas, on va te donner tes gouttes. Voilà.
Pourquoi il les a pas encore
puisque c'est comme ça, je m'en vais.
Non, reste avec nous.
Il n'y a pas de avant l'émission.
Le druide se lève, il va dans la marmite.
Benji, pour demain, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que les bookmakers nous disent?
Eh bien, c'est Vincenzo Nibali le favori, 6,50. Avec une belle descente à la fin. Vandenbroek deuxième, Cadel Evans. Tout comme Vandenbroek, cote de 8,50 et puis Froome à 10 pour le récompenser parce que la cote est belle. Je vais jouer Luis Leon Sanchez, cote de 30.
Jérémy Roy, il n'est pas dans le
jouer comme toi, Jérémy. Donc
ah, mais non,
je
pensais que
tu
allais jouer Jérémy Roy, donc j'ai pris Sanchez.
Je veux prendre Sanchez aussi.
Eh bien, on se le partage, Sanchez, avec plaisir.
Je veux prendre Luis.
Bon.
Oui.
Thierry.
Banga.
Et tu vois, l'année dernière, il y a un nom qui m'est venu comme ça et j'ai dit Pierrick Federigo.
Ah ouais.
C'est vrai.
Et il a gagné.
C'est vrai.
Et ce soir, je ne sais pas pourquoi, ce nom me vient dans la tête. Donc je le joue.
Sur ce coup-là. Je m'inquiète pour mon maillot jaune.
Eh oui. Le joue parce que il y a une étape où il peut encore exister sur ce tour-là, c'est celle-là.
Ouais.
Il faut qu'il parte de loin hein, quand même.
Ouais, il a intérêt à partir de loin. Mais c'est un beau coup tenté par.
Et je le vois revenir gentiment.
Qui lui permettrait de prendre le maillot jaune, Benji, si ça rentre. Hein.
Sauf que Federigo, je l'ai vu quand même passer les grandes étapes de montagne.
Hein. Oui. Oui. Non, mais au début de tour, il n'était pas bien. On l'a vu revenir et aujourd'hui, il finit devant. Donc c'est pour ça que je joue vainqueur demain.
Oh là là, t'es sûr de toi.
Sûr de moi.
Il a une intuition.
T'as troublé Lucho.
Il a une intuition. Cyril.
200 la cote.
Mais je joue mon batou là. Sur le tour, c'est là qu'il faut le gagner.
Oh, il était arrêté là dans le final.
Bien sûr. Et s'il est arrêté lui.
Non, mais il s'était mis en jambe pour demain. Il a raison, Cyril.
Mise en jambe.
Et ben moi je pense qu'il va réussir à en faire une. Je vais jouer Chavanel moi.
Chavanel, ah non, là, 30 Christophe Lacote.
Christophe, c'est
et
pas
nous,
là.
Elle est à combien Benji la cote?
Qu'est-ce qu'il y a Thierry?
La cote de Sanchez est à 30 Lucho.
Oh, punaise, et Vino, il est à combien?
Pas sur une étape comme ça.
Je vais pas revenir moi.
Vinokourov, il est à 40 Cyril.
Oh ça va, c'est prenable.
Ouais, mais moi je vais pas revenir.
Bon non, tu vas pas changer encore de Paris, on n'a pas le temps. Il reste une minute, c'est terminé.
tu ne reviendras jamais.
Non, voilà. Et puis mais par contre, Thierry peut faire un coup demain. Merci Benji, on se retrouve
à demain vers
14h30 pour les paris.
10h midi.
Il est là, Dédé. Dédé !
Il est où, Dédé ?
Je suis là.
Il y a combien, Kazar ?
C'est fini les paris. Tu reviendras demain en deuxième semaine ou l'année prochaine pour essayer de te rattraper. Dédé, donc demain, 14e étape de ce Tour de France.
Oui.
C'est du costaud.
C'est
notamment
du costaud, c'est Limoufois, 191 km, 3 cols, dont les deux derniers des premières catégories, le port de l'Hers au kilomètre 126,5 et le mur de Péguerre, surtout le mur de Péguerre qui est à 38 km
ça
de l'arrivée,
quand même, hein.
9,3 km à 7,9%, avec un final redoutable, les trois derniers kilomètres avec des pentes qui pourront monter jusqu'à 16 ou 18%.
Faudra ça
entre 16 et 18% les trois derniers.
Hein.
Ouais,
c'est pas un col, c'est un mur.
C'est un final assez redoutable. Ouais, c'est un mur. Après la descente.
Alors, il paraît que les coureurs du Tour de France avaient refusé un jour de descendre le mur de Péguerre parce que trop dangereux.
Oui.
Mais cette fois-ci, on va le monter. Donc il n'y a pas de souci. Après, la descente est plus régulière.
La descente de l'autre côté est beaucoup plus tranquille.
Ouais. Hein. Les cols pyrénéens, les descentes, on sait que c'est souvent
dangereux.
Ouais, ce sera le cas demain. Ouais.
Ça sera scabreux parce que c'est une descente pyrénéenne, évidemment. Donc faire attention. Les routes ont été nettoyées, préparées comme chaque année, mais sont des routes qui souffrent pendant l'hiver. Certains cols sont même fermés pendant l'hiver, bien entendu. Donc il y a des trous, il y a des ornières. Tout ça est rebouché par le département, en l'occurrence là, l'Ariège. Il n'empêche que ça reste des endroits dangereux à franchir. Les balayeuses de l'Ariège seront de sortie, auront repéré l'ensemble et les derniers balayages auront eu lieu aujourd'hui pour demain.
Très bien, il fera beau demain ?
Il fera beau demain, même si le ciel pourra se couvrir en fin de journée. Certains annonceraient même quelques gouttes.
Oh là,
nous sommes dans les Pyrénées, messieurs.
On n'a quasiment pas vu l'eau depuis qu'on est parti. C'est pas le cas.
Même en Belgique. Hein.
C'est pas le cas de Céline qui, elle, est à Paris. Elle
oui, je suis à Paris. J'entends une sonnerie de 38 tonnes. Je m'inquiète un peu derrière vous.
Ils sont en train de nous écraser.
C'est quand même pas Céline.
C'est l'heure de partir.
Céline,
t'as
pas changé ta monture.
Non, j'ai pas changé. J'ai toujours la petite bicyclette avec la klaxon. À demain, les garçons. Allez, à toute vitesse.
Demain, Céline.
Dans Before London, à 13 jours du coup d'envoi, bien sûr, vous restez avec nous. On reviendra notamment sur la belle perte de Christophe Lemaître aux 200 mètres du basket avec Jacques Monclar, Nicolas Karabatic et Tony Estanguet. Et puis le débat ce soir, les JO sont-ils toujours abordables? Combien ça coûte? On en parle au 32-16. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour de France 2012.